crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une huile sur toile de 50 cm de haut sur 40 cm de large. Elle est intitulée Série One Pink Line. Elle a été réalisée en 1919 par la célèbre artiste américaine Georgia O'Keeffe. Le tableau est ainsi composé. Deux orbes pervenches, comme les deux valves symétriques d'un coquillage ouvert, entourent un ovale ivoire. Celui-ci est au centre de la composition, il est fendu en son cœur d'une ligne bleue qui laisse paraître un bouton rose dans son entrebâillement. Autour, des membranes se replient et se retournant dévoilent leur envers, couleur chair. Ces surfaces qui s'effeuillent, ces volumes gonflés par la lumière, sont placés par l'artiste au centre de la composition comme on le ferait d'un visage photographié d'un peu trop près et resserré par la coupure du cadrage. En haut, au centre, dans l'articulation de la symétrie, un écoinçon noir et carmin couronne la peinture comme un blason, éclairé par une lumière rougeâtre. C'est une étrange représentation. Cette forme s'appuie dans le moelleux de son pourtour fait de courbes souples et grasses, ourlées de replis qui s'effondrent dans les nuances de leur incarnat. Mais qu'est-ce que nous voyons là? En tout cas, une peinture absolument inattendue dans le concert de l'art européen, soudain en vogue à New York au début du XXe siècle. Une célébration de la vie, sans doute, un hymne aux fleurs mystiques célébrant les noces de la nature et les forces de la génération, un symbole de l'union du masculin et du féminin, peut-être. En tout cas, à New York, depuis 4 ans, quand surgit Georgia O'Keeffe en 1916, c'est une immense surprise qui advient, un art considéré par différence à tous les autres, comme enfin, pensait-on, absolument américain.
Une fleur est quelque chose de relativement petit. Une fleur, l'idée de fleur, cela parle à tout le monde. Pourtant, d'une certaine façon, personne ne voit vraiment une fleur. C'est si petit. Et puis, on n'a pas le temps. Et voir prend du temps, comme l'amitié prend du temps. Alors, je me suis dit, je vais peindre ce que je vois, ce que la fleur signifie pour moi. Mais je vais la peindre en grand. Et les gens seront si surpris qu'ils prendront le temps de la regarder. Même les New-Yorkais, si occupés, prendront le temps de voir ce que je vois dans les fleurs. La grande fleur blanche au cœur jaune représente ce que j'ai à dire sur le blanc et qui n'a plus rien à voir avec ce que le blanc signifiait pour moi avant. Je ne saurais dire ce qui passe d'abord de la fleur ou de la couleur blanche. Mais ce que je sais, c'est que si la fleur est si grande, c'est pour vous faire part de mon expérience de la fleur. Et qu'est-elle, cette expérience, si ce n'est celle de la couleur? Pour moi, la couleur est une des choses au monde qui font que la vie vaut d'être vécue. Et je vois la peinture comme le désir de créer avec des pigments de couleur un équivalent à la vie telle que je la vois. Georgia O'Keeffe.
Nous entendions à l'instant un extrait des paroles de Georgia O'Keeffe sur les fleurs, car peut-être l'œuvre que nous regardons aujourd'hui est une fleur. Pour le savoir, nous aurons auprès de nous l'artiste Mathilde Roussel. Bonjour Mathilde.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes une artiste qui vivait à Paris. Vous êtes, est-ce qu'on peut dire sculpteur ? Je ne sais pas, mais vous travaillez parfois en volume avec des matériaux étranges. Vous repliez souvent des surfaces recouvertes préalablement de graphite. Parfois, vous incluez des éléments naturels dans vos sculptures, ce qui fait qu'elles passent d'un monde à un autre, comme si elles étaient en permanente mutation. Et curieusement, on a l'impression que l'objet que l'on vient d'examiner en pensant à ce tableau de Georgia O'Keeffe est lui-même en une sorte de mutation. Croyez-vous que ce soit vrai? Qu'est-ce que vous avez vu dans cette dite fleur?
Alors effectivement, y a un lien, il y a une ambiguïté très forte entre l'élément naturel de la fleur et une forme corporelle, une forme de corporéité. Il y a moi, ce que je vois en premier, c'est cette fente, cette incision qui vient couper l'image un peu comme un geste chirurgical et qui vient ouvrir l'espace de l'extérieur à l'intérieur. C'est ça qui m'intéresse, qui vient lier le tissu extérieur de cette fleur ou de ce corps à un intérieur plus mystérieux.
Alors on pourrait trouver très banal pour un artiste, femme, dans ce moment un petit peu sexiste ou puritain de l'Amérique du début du XXe siècle, de prendre comme thème presque évident les fleurs. Et on va s'apercevoir, j'espère, dans notre émission, que cette fleur amène des complexités très particulières et qu'elle a pu, par certains moments, surprendre largement son auditoire. Je reçois pour nous appuyer dans ce domaine Sophie Bernard. Vous êtes conservateur, chargé des collections modernes et contemporaines au musée de Grenoble. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Donc vous avez été le commissaire de sélection Georgia O'Keeffe et ses amis photographes qui a lieu en ce moment au musée de Grenoble et ce jusqu'au 7 février. Et vous préparez une exposition Kandinsky, les années parisiennes, un autre sujet. Mais Kandinsky d'ailleurs, c'est pas si mal parce que je crois que Georgia O'Keeffe et Stieglitz, son mari, avaient lu Kandinsky.
Oui, bien entendu, Georgia O'Keeffe a été fascinée par du spirituel dans l'art, et d'ailleurs c'est, dit-on, son livre de chevet jusqu'à la fin de sa vie.
Alors du spirituel dans l'art, c'est un livre de Kandinsky qui a dû être écrit quand, vers 1911-1912 par là ?
Qui paraît en 1911, qui doit être traduit, il me semble, un petit peu plus tardivement aux États-Unis, et qui en tout cas est publié dans Camera Work, donc elle a l'occasion de lire, dès le début des années 10.
Alors ce qu'on voit quand on regarde le tableau que nous examinons aujourd'hui de Georgia O'Keeffe, c'est une fleur ou c'est du spirituel dans l'art ?
J'y verrais plus du spirituel dans l'art qu'une fleur, surtout à ce moment-là de sa carrière, je dirais. C'est un moment, effectivement, où Georgia O'Keeffe fait table rase du passé, fait table rase de ce qu'elle a appris auprès, notamment, d'un certain nombre de professeurs, comme William Mary Chase. C'est quelqu'un qui s'est formé à la nature morte à ses débuts et qui, dans les années 10, se fait connaître par ses célèbres specials, ses dessins en fusain, qui vont profondément marquer Stieglitz, qui dira « enfin une femme qui se donne, enfin une femme sur le papier ».
Parce que, en fait, c'est vrai que Stieglitz, qui était le propriétaire et le directeur de la galerie la plus célèbre de la naissance de l'art moderne en Amérique, qui a fait la relation entre New York et l'art moderne, qui a montré très tôt Picasso, Brancusi, après avoir fait avec sa première exposition, je pense, Van Gogh et beaucoup des premiers grands artistes post-impressionnistes, a reçu ça par le courrier quasiment.
En fait, c'est Anita Politzer, donc une amie de Georgia O'Keeffe, qui lui les transmet directement à la galerie. Mais c'est Georgia O'Keeffe qui transmet en fait à Anita Politzer par le courrier. C'est une quinzaine de fusains inédits, ces abstractions très étonnantes qui évoquent, je dirais, tant des... Ça fait penser à la fois peut-être à Odilon Redon, éventuellement même à Hugo. Il y a quelque chose de très symboliste. Et ces abstractions radicales, dit-elle, sont essentially a woman's feeling, essentiellement une sensation féminine. Donc on est déjà, je dirais, presque dans l'abstraction et la pink line dont nous parlons. Ce sont des dessins précurseurs qui viennent en tout cas montrer que ces arabesques très étonnantes, très sensuelles, vont marquer ensuite son travail à l'huile une fois qu'elle sera à New York.
Alors Mathilde, dites-moi, le fusain, c'était comme ça que Stieglitz, le grand photographe et propriétaire de la galerie 391, a reçu les premières informations sur cet artiste, Georgia O'Keeffe. Le fusain, il y a vu quelque chose de plus au fond que quelques lignes alors que l'on voit souvent reproduit deux éclairs, deux tracés, etc. Est-ce que le fusain aurait un sens particulier comme matière, vous qui l'utilisez parfois ?
Oui, alors j'utilise à la fois le fusain et le graphite qui sont des matières très minérales et qui me rappelle le passage d'une vie à une mort, peut-être quelque chose de l'ordre du vivant qui deviendrait qui prendrait une temporalité plus géologique, dont l'état se transformerait et deviendrait quelque chose de proche de la poussière.
Vous avez l'impression que cette question du cycle de la vie, de la reproduction, de la naissance, et probablement de la mort et de l'après-mort, est quelque chose qui va dans le monde de Georgia O'Keeffe? Vous pensez qu'elle nous montre des fleurs fragiles, exaltées, ou est-ce qu'elle nous montre quelque chose de plus lointain, de plus complexe, avec ses grandes corolles?
Je pense que on ressent une matière vivante, en tout cas quand on regarde ces toiles. À mon avis, Georgia O'Keeffe devait avoir une vision assez panthéiste du monde, avec cette idée qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différents éléments, entre le végétal, le minéral, l'animal. Donc on ressent cette force-là. Et quand on pense à ces peintures d'ossements, carcasses, à toutes ces os d'animaux qu'elle a récupérés, on a l'impression qu'elle a redonné une certaine forme de vie à la mort.
Alors effectivement, beaucoup plus tard dans son travail, dans les années 30 et plus, elle va se servir de ce qu'elle trouvera dans le désert et qui sont des carcasses d'animaux. Vous êtes d'accord avec l'interprétation qu'en fait Mathilde?
Oui, totalement, effectivement.
Sophie Bernard.
Georgia O'Keeffe a une vision panthéiste très inspirée du monde, de ses débuts, de ses compositions qui sont, je dirais, presque symbolistes, jusqu'à ses compositions de ciel qui viennent clore son parcours artistique. Et ses visions d'ossements, à partir de 43, notamment ses visions d'ossements pelviens, font partie, à mon sens, des œuvres les plus extraordinaires de Georgia O'Keeffe. Elle parvient, à partir des ossements qu'elle récupère, qu'elle collectionne dans le désert, à créer des visions. Elle dit « je peins les eaux et le ciel ». Et d'une certaine manière, elle vient presque sonder la profondeur des nuées avec ses ossements, dont elle se sert d'ailleurs comme de jumelles presque. Il y a quelque chose de très étonnant. Et là encore, on peut citer Julia Kristeva qui disait, au sujet de ses ossements pelviens, elle disait que c'était une femme qui n'avait pas eu d'enfant. C'est un fil conducteur aussi dans sa carrière, peut-être une blessure, et qu'au fond, ses ossements pelviens étaient d'une certaine manière une manière de, voilà, une sorte d'enfantement de forme colorée, une célébration, dit-elle aussi. Elle parle d'une célébration de l'ossuaire pelvien, une autre manière de célébrer la féminité au-delà des fleurs et au-delà des abstractions très sensuelles des débuts. Donc là aussi, il y a un fil métaphysique.
Alors là, on est parti loin, puisqu'on est déjà dans les années 40, et alors que nous essayons de voir ce qui se passe en 1919. Vous avez une idée de ce qui se passe en Europe, Mathilde, à cette période-là, entre 1910 et 1920?
Alors en Europe, je pense à Brancusi tout de suite. Quand je regarde le travail d'O'Keeffe, c'est intéressant parce que il a travaillé sur des formes très organiques, très ambiguës entre le corps humain et des formes plus naturelles. Donc il y a peut-être eu des échanges.
Il y a eu des échanges, mais au fond, il y a surtout une surprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Bernard? Est-ce que l'arrivée de cette peinture-là en Amérique à cette période-là est une surprise, ou est-ce que c'était totalement prévisible?
On parle souvent du caractère éminemment américain de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, d'une artiste purement américaine. C'est ce que souhaite en dire Stieglitz, mais au fond, cette Georgia O'Keeffe, elle fréquente une galerie qui accueille nombre d'artistes européens. Elle connaît l'œuvre de Rodin, notamment, ce magnifique dessin qui l'inspire dans des aquarelles et ensuite qui vont certainement marquer son travail. Elle connaît aussi l'œuvre des pionniers de l'abstraction. On a parlé de Kandinsky. On peut tisser des liens aussi entre ce type d'abstraction et celle de Kupka. Donc, à mon sens, elle est américaine, inédite à sa manière. Elle se distingue des artistes masculins du cercle de Stieglitz. Mais au fond, est-ce que c'est une surprise?
Elle n'est pas si imprévue que ça, c'est ce que vous voulez dire?
Je pense.
Alors on va revenir sur l'histoire quand même de la rencontre et de l'amour très étrange et très, très puissant entre Stieglitz et Georgia O'Keeffe. Mais je vous propose d'écouter auparavant à nouveau les paroles de l'artiste.
J'ai le sentiment qu'une forme réellement vivante est le résultat naturel des efforts d'un individu pour créer cette chose vivante à partir de ce que son esprit, s'aventurant dans l'inconnu, a expérimenté, ressenti, sans le comprendre. Et de cette expérience naît le désir de révéler cet inconnu. Par inconnu, j'entends ce que cet individu ressent sans pouvoir clairement le comprendre. Parfois il sait pourquoi, parfois il ne le sait pas. Parfois cela se passe dans le noir absolu. Mais c'est un travail qui doit être fait. Révéler l'inconnu, selon le mode d'expression propre à chacun, vous absorbe tout entier. Si l'on cesse de penser à la forme en tant que forme, on est perdu. Les formes de l'artiste doivent être inévitables. On ne doit pas penser un seul instant que l'on ne réussira pas. Lorsque j'ai compris que tout art valable, des débuts à nos jours, n'est régi que par quelques principes, j'entrepris d'étudier ces principes qui interviennent dans l'art et aussi dans la nature. L'un d'eux, très évident, était le choix du motif simple, choix qu'a fait aussi la nature, à qui suffisent un petit nombre de formes et de couleurs.
I can imagine myself being a much better painter and nobody paying any attention to me at all. But it happens that the things that I have done, the things that I've been doing have been in touch with my time so that people have liked it.
Je pourrais être un bien meilleur peintre, mais personne ne s'occuperait de ce que je fais. Mais il se trouve que les choses que j'ai faites étaient liées à mon époque et ont plu aux gens.
Après les textes lus, nous entendions à l'instant la voix d'O'Keeffe. Et donc, puisque nous observons ensemble ce très beau tableau, la ligne rose de 1919 de Georgia O'Keeffe, la grande artiste américaine, je voudrais vous demander, Mathilde Roussel, vous qui êtes aussi une artiste, et puisque Georgia nous dit qu'il faut qu'une œuvre révèle l'inconnu, de quel inconnu nous parle donc l'œuvre que nous regardons ? Est-ce qu'elle nous révèle quelque chose ? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance ou de la méconnaissance ? Est-ce qu'on est dans une tension entre l'abstrait et le figuratif ? Est-ce qu'il y a un sujet, vraiment ?
Alors, on est définitivement dans une tension entre l'abstrait et le figuratif, parce qu'on a l'impression de voir plein de formes différentes dans ce tableau. Moi, ce que j'y ai vu assez rapidement, c'est l'origine du monde de Courbet, qui était aussi une représentation assez du sexe féminin qu'on retrouve dans cette peinture, mais qui était surtout un gros plan finalement sur un corps. Et c'est cette idée de zoom et de cadrage très serré sur une forme ambiguë qui est intéressante.
Sophie Bernard, ces peintures ont choqué, ont-elles été trouvées trop sexuées lorsqu'elles ont apparu dans la galerie 391 à New York ?
D'emblée, elles font scandale, je dirais, puisque la critique de l'époque, Stieglitz en premier lieu, mais également le peintre Marsden Hartley, Paul Rosenfeld, vont dire que le travail de Georgia O'Keeffe est volcanique, sexuel, sensuel. Et on peut d'emblée aussi tisser des liens avec les portraits que réalise Stieglitz de Georgia O'Keeffe au même moment, puisqu'ils sont contemporains.
Qu'est-ce que Stieglitz donc photographiait Georgia O'Keeffe ?
Stieglitz photographie Georgia O'Keeffe à partir du moment où il la rencontre en 1917. Il la photographie.
C'était déjà un photographe très mondialement célèbre, n'est-ce pas ?
C'était le pionnier, pourrait-on dire, de la photographie moderne, le promoteur de la photographie moderne, ce qu'on appellera aussi la photographie pure dans ces années 10. Il défend la photographie moderne dans sa galerie de 191 et il photographie sa muse, Georgia O'Keeffe, du moins il en fait sa muse, et la photographiera de 1917 jusqu'à sa mort. Et ces photographies sont inédites pour l'époque, elles sont révolutionnaires. Il photographie Georgia O'Keeffe entre guillemets, sous toutes ses coutures. On a de magnifiques photographies de mains de Georgia O'Keeffe, des photographies de sa poitrine, des photographies de son corps, qui sont très charnelles et certainement les plus matérielles et les plus charnelles de Stieglitz à ce moment-là.
Près de 300 photographies de sa femme.
Oui, près de 300 photographies. Donc pour lui, c'est un journal photographique, c'est comme ça qu'il l'entend. Il la photographie tous les jours. Il avait tenté l'expérience avec sa fille dans une toute autre mesure au préalable, sa fille Catherine. Et là, il se lance effectivement dans une aventure photographique inédite, et on lit à l'époque ces photographies très sensuelles de la même manière qu'on regarde en fait ces abstractions. Il y a les mêmes formes, enfin des forces abstraites, je dirais, des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a une sensualité dans ses peintures et une grande sensualité dans ses photographies, et on peut imaginer que ces fragments de corps, d'un côté, influencent également la lecture que l'on a des abstractions et des peintures de Georgia O'Keeffe, qui s'érigent, on va dire en faux, contre une lecture sensuelle, sexuelle de son travail aussi. À un certain moment donné, elle est blessée par la critique de l'époque et notamment par l'exposition de Stieglitz qui s'intitule en 1921 au Anderson Galleries A Woman, une femme, comme quelque chose de très essentiel et d'un peu sexiste.
Mathilde Roussel, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit ?
Oui, alors je trouve ça intéressant précisément parce que c'est le thème de l'émission, ce sont les regardeurs qui font l'œuvre, et là, les regardeurs ont complété, ont interprété différemment son œuvre par rapport à ce qu'elle avait peut-être voulu dire, mais ça fait partie du dialogue entre l'artiste et celui qui regarde.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle l'a un peu cherché ? Quand on voit ce tableau de 1919, c'est quand même... Vous avez l'impression qu'il est peu sexué. Vous disiez tout à l'heure vous-même que c'était l'origine du monde de Courbet. Donc il y a une évidence, non ? Est-ce qu'elle a une ambiguïté par rapport à ça ? Ou bien est-ce qu'il faudrait dire que ce qu'elle veut représenter n'est pas tellement la sexualité au sens de la sexualité féminine ou masculine, mais une sexualité du monde ?
Oui, plutôt.
Plus universelle ?
Oui, je pense que c'est plutôt ça, plutôt que de réduire ses peintures à une sexualité féminine. Il faut peut-être plus l'interpréter comme une ouverture sur le paysage, cette idée de confusion entre l'homme et le paysage, et l'idée d'ouvrir le corps pour comprendre ses états, ses transformations, ses mues, un peu comme les transformations du paysage.
Sophie, je vous en prie.
Oui, ou l'idée effectivement de son corps comme un filtre qui lui permet effectivement d'appréhender le monde de manière sensuelle, ce qui est le cas dans ses premières années 10 et également dans ses vues du Nouveau-Mexique, où les collines, les canyons font penser aussi à un corps féminin. On a des anfractuosités, on a des courbes, on a quelque chose de très sensuel. Et tout au long de sa vie, Georgia O'Keeffe s'exprime avec cette sensualité assez inédite.
Est-ce que ce n'est pas une vision spirituelle comme peut l'être l'animisme, c'est-à-dire une relation très charnelle à la terre originelle, à la puissance générative du monde? Est-ce que ce n'est pas aussi spirituel que peut l'être un lingam ou un yoni?
Sûrement. En plus, Georgia O'Keeffe a effectivement une vision panthéiste du monde. Elle se passionne pour les arts asiatiques plus largement. Donc on a une fascination chez elle pour la calligraphie japonaise, et on a aussi un de ses mentors qui est Arthur Wesley Dow à ses débuts, qui lui offre, je dirais, une certaine vision du monde, qui lui dira aussi « le sujet est en toi, la nature ne donne que des suggestions », donc il, je dirais, peut-être l'embarque dans une certaine vision là aussi du monde.
Puis il y avait aussi toute cette tradition d'écrivains américains qui écrivaient autour de la nature, du rapport au paysage, et notamment Whitman, qu'elle avait peut-être lu.
Oui, qu'elle lit, Feuille d'herbe, qui est
Feuille d'herbe,
c'est le livre de chevet également.
Et qui dit dans un de ses poèmes que l'herbe constitue la nourriture de l'animal et donc de l'homme, et que l'homme, lorsqu'il meurt, va se décomposer et redevenir la nourriture de l'herbe. Donc
on est nourri dans cette idée du cycle.
Voilà, du cycle.
Il y a un aspect, parfois, il y a des interprètes de travail de O'Keeffe qui ont évoqué largement la question de l'alchimie, donc des sciences à la fois spirituelles et des noces chimiques au sens poétique du terme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que Georgia O'Keeffe et Stieglitz, notamment dans cette bulle et ce havre de paix qu'constitue Lake George à 300 km de New York, sont effectivement, dans cette logique alchimique, ou en tout cas sont passionnés de théosophie. Ce sont leurs lectures. On a parlé de Whitman. Stieglitz, à ce moment-là, se passionne aussi pour Goethe. On est dans un univers, dans une bulle encore très symboliste, très romantique. Pensons aux équivalents de Stieglitz au même moment.
Les équivalents de Stieglitz, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, ce sont ces célèbres portraits de nuages où Stieglitz, d'une certaine manière, découpe le ciel par fragments, là encore, et dit que ses équivalents sont des équivalents de ses émotions. Ce sont les équivalents des vibrations de son âme, dit-il. Et Georgia O'Keeffe peint en ce même moment des paysages, dont celui du Centre Georges Pompidou, cette vue de Lake George qui est très ourlée et qui est un paysage où l'on voit, où il y a une fusion, on va dire, entre les nuées et le lac. Et on a des correspondances étroites entre ces vues de nuages chez Stieglitz et ces peintures très atmosphériques, très sensuelles encore chez Georgia O'Keeffe.
Alors Georgia O'Keeffe a un succès presque immédiat, non ? Est-ce qu'elle est devenue très célèbre tout de suite ?
Très rapidement, grâce à Stieglitz d'ailleurs, puisque on l'a vu, la galerie 291 et toutes les galeries de Stieglitz ont relayé et ont constitué une tribune pour le travail de Georgia O'Keeffe. Et en même temps, elle devient millionnaire à la fin des années 20 grâce aux ventes de tableaux de fleurs de Stieglitz, notamment les fameux Calla Lilies. Et il en vend 6 en 1928, je crois, pour 25 000 dollars. Et donc progressivement, l'artiste est millionnaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mathilde ? Une artiste commence sa carrière à New York au cœur de l'avant-garde et propose des fleurs. Est-ce qu'il n'y avait pas plus banal comme sujet ? C'est le sujet le plus banal possible, non ? Comment
oui,
faire pour qu'un sujet pareil ne soit pas banal ?
Alors, précisément parce qu'elle l'a traité d'une autre manière. Elle a peint des fleurs, mais elle les a peintes avec des cadrages, des zooms qui les rend presque abstraites.
Et toujours avec une vision très très rapprochée. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée du gros plan ? Est-ce que ça vient de la photographie, pensez-vous ? Ou est-ce que c'est ou du cinéma de l'époque ?
Ah oui, c'est sûr, ça vient de la photographie, parce que justement, elle était entourée de tous ses amis Stieglitz, Strand, etc., qui avaient exploré ces manières de voir le monde de très près, voilà.
On peut considérer que c'est un sujet féminin de la même manière. Au même moment, Imogen Cunningham photographie ses fleurs. Ce sont aussi les fleurs de son jardin. Donc, a priori, il y a un côté comme ça. Ce sont des femmes. Elles doivent photographier ou peindre des fleurs. Mais chacune d'entre elles parvient à le faire de manière inédite et presque révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elles ont un sujet féminin sous la main et elles s'affranchissent, en fait, de ce sujet et parviennent à créer des représentations inédites. On a parlé du cadrage, on a parlé effectivement des agrandissements, du zoom. On pourrait encore évoquer l'érotisme qui se dégage de ces représentations.
Alors regardons ce dont on a parlé. Vous avez parlé de Courbet avec l'origine du monde. Tout à l'heure, vous avez évoqué les extraordinaires aquarelles érotiques de Rodin qui ont été montrées également à la galerie 291. Maintenant, nous parlons de ces calices étranges, donc des femmes de son époque. Et c'est vrai qu'il y avait entre autres Anne Brigman, une des grandes artistes pictorialistes érotique de Californie, je crois, de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui était très amie avec Georgia O'Keeffe. Et puis, il y avait une constellation de photographes, vous le rappeliez tout à l'heure, Mathilde. Qui avait-il donc ? Comment est-ce que c'était organisé ? Stieglitz, Teichen, les deux grands photographes américains, rassemblés dans la grille de 191, et les autres ?
Georgia O'Keeffe, elle rencontre également Paul Strand, qui est aussi une figure tutélaire, en fait, pour elle. On dit que c'est même Paul Strand qui vient la chercher, alors qu'elle est professeure encore au Texas, pour la faire venir vivre à New York. Stieglitz, voilà, invite Paul Strand à aller la chercher. Donc, elle est aussi très admirative du travail de Paul Strand. C'est pour elle, elle possède donc des photographies emblématiques, iconiques de Paul Strand, notamment les fameux bols qu'il photographie dans le Connecticut et encore.
Qui sont photographiés là aussi de très près, des pneus, des bols, des répétitions d'architecture, et puis évidemment tous les portraits cadrés extrêmement près, comme ces portraits très célèbres, femmes aveugles, borgnes, etc. Qui sont...
Et donc ces vues, effectivement, de balustrades ou autres, ont un caractère abstrait qui marque Georgia O'Keeffe, et elle dit « je fais des photographies de Paul Strand dans ma tête ». Ça, c'est intéressant aussi de voir combien Paul Strand l'a marqué, et après on peut tisser des liens avec le travail de Weston et Cunningham.
Alors, Weston, c'est ce grand photographe qui photographie des coquillages ou des poivrons, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Dites-nous en plus un peu.
Donc,
où est le point commun ?
Le point commun, à mon sens, il est dans la sensualité, il est dans le cadrage, là encore, très, très étroit, et dans cette capacité à partir de motifs et de végétaux cadrés de façon serrée, vus de près, à créer des images d'une grande sensualité. Weston photographie le corps de ses modèles, comme il photographie un poivron, et Georgia O'Keeffe, d'une certaine manière, sans représenter les corps, parvient à rendre la nature extrêmement sensuelle, voire sexuelle.
Alors écoutons à présent les critiques Paul Rosenfeld et William Merrell qui respectivement en 1919, l'année du tableau que nous observons, et en 1917, un peu auparavant, donnent leur impression dans la presse de cette nouvelle star de la peinture qui apparaît à New York.
Il y a des endroits dans le travail de O'Keeffe dans lesquels l'artiste semble porter devant nos yeux les contours d'un univers entier, toute une trajectoire de vie, de mystérieux cycles de naissance et de reproduction et de mort, exprimés à travers les conditions d'un corps de femme. Parce qu'il n'y a pas un seul trait posé par son pinceau, quel que soit ce qu'elle peint, qui n'est pas, curieusement ou de manière saisissante, féminin en qualité. L'essence d'une véritable féminité pénètre ses peintures. Paul Rosenfeld, Blue and Green Music, 1919. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses tentatives délibérées de traduire en lignes et en couleurs l'effet visuel des émotions stimulées par la musique. Et j'ai tendance à penser qu'elles ont échoué, justement parce qu'elles étaient si délibérées. L'on doit devenir en quelque sorte un canal, un médium volontaire, à travers lequel cette musique visible s'écoule. Et sans aucun doute, cela vient plus souvent de mélodies jamais entendues que de l'écoute d'instruments. La vraie musique des sphères, ainsi que l'appellent les mystiques de tout temps. Et très judicieusement, il y a une loi intérieure d'harmonie au travail dans la composition de ces dessins et peintures par Mademoiselle O'Keeffe. William Merrell Fisher, Camera Work, 1917.
Vous êtes toujours sur Les Regardeurs et nous écoutions les commentaires faits à l'époque sur la peinture de Georgia O'Keeffe, cette grande artiste américaine. Nous considérons plus particulièrement cette étrange peinture de 1919, la ligne rose. Et je suis avec l'artiste Mathilde Roussel et la conservatrice Sophie Bernard pour commenter cela. Est-ce qu'on peut espérer que cette peinture ait eu des conséquences fortes sur l'histoire de la peinture américaine après? Et est-ce que sur un artiste comme vous, un artiste du 21e siècle, c'est une peinture qui peut encore avoir un impact autre qu'esthétique, un impact séminal pour votre propre travail?
Oui, je pense que déjà en tant qu'artiste femme, elle a eu un impact sur les générations suivantes d'artistes femmes, parce qu'elle s'est... Elle fait partie des artistes et des femmes libres qui, dans une société dominée par les hommes, a eu le courage de se détacher du modèle imposé. Et puis, elle a pu s'emparer de cette représentation du corps qui, dans l'histoire de l'art, avait finalement été traité uniquement ou pratiquement uniquement par les hommes, qui avait peint le corps des femmes. Donc elle a permis peut-être aux générations suivantes de se réapproprier le corps. D'une manière indirecte, elle a dû probablement influencer ma pratique.
Sophie Bernard, quel effet sur la peinture d'après? Est-ce que, ou quelle surprise dans la peinture du moment? On était quand même à une époque où, 3-4 ans avant, il y avait... Le grand nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp exposé, les premiers Picasso, il y a eu la fontaine de Marcel Duchamp en 17 à New York, et Picabia, et dans la perspective. Et là, tout d'un coup, on tombe sur une œuvre qui n'a rien de ce parfum de la peinture européenne de l'époque. Quoi que vous disiez que ce n'était pas vrai, puisque vous me disiez que c'était Kubka. Mais qu'est-ce qu'elle va permettre? Est-ce que ça surprend? Pourquoi est-ce que Stiglitz est enchanté et a l'impression de découvrir un peintre américain, enfin?
Ce qui l'enchante, je pense, c'est le côté très intuitif de l'artiste, ce côté très, très sensuel.
Vous êtes sûr que ce n'est pas intellectuel? Vous êtes sûr que c'est strictement intuitif? Vous êtes sûr que ce n'est pas très pensé, au contraire?
Certainement, mais j'y vois quand même quelque chose de très émotionnel, malgré tout. Je ne sais pas comment le...
Est-ce que sa couleur est rare à l'époque?
Très rare, oui. C'est une palette inédite. Et quand on observe les peintures de Georgia O'Keeffe encore aujourd'hui, on est fasciné par cette palette. C'est cet aspect translucide, transparent, ces couleurs presque acides. Et peut-être là encore, on pourrait-on dire féminine, mais on a dans cette peinture Pink Line des roses, des verts, quelque chose d'extrêmement frais et en même temps de très étonnant pour l'époque.
Est-ce que souvent on a dit, mais on est là annoncé ce que seront les œuvres de Roscoe quelques années plus tard. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille?
On peut le dire plus tardivement. On peut le dire notamment pour ses peintures de ciel à partir des années 50, où l'artiste d'ailleurs est exposé en 1970 au Whitney. Et on la considère alors comme un précurseur des peintres du Colorfield.
Faut que je dise aux auditeurs qu'elle est disparue à 99 ans, en 1986. Donc elle a une carrière incroyablement longue, puisqu'elle est née en 1887 ou 97.
87, elle vit presque 100 ans.
Presque 100 ans, oui.
C'est une carrière qui épouse un certain nombre de révolutions au XXe siècle. Moi, je dirais donc plus à la fin de sa carrière qu'elle a pu influencer et être un précurseur de ces 10 peintres du Colorfield.
Il y a quand même une chose qui est curieuse, c'est que à cette époque-là, les artistes vont poursuivre un travail très mythologique ou mythique sur les grands mythes, je pense. Et ce n'est qu'après la guerre que la plupart des artistes, je pense à Roscoe à nouveau, vont repartir, ou à Bernard Newman, de ce sentiment très archaïque de l'histoire, du sentiment qu'il faut balayer toute cette culture grecque et romaine et les conséquences que ça a pu avoir et repartir depuis zéro. Comme si on peignait comme le premier homme. Et il y a un aspect dans le travail de Georgia O'Keeffe où elle peint comme le premier homme, comme si elle était... Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est un geste très primordial, effectivement. Il y a un lien très fort avec des éléments naturels qu'elle trouve autour d'elle. Donc elle ne va pas forcément chercher très loin dans des concepts compliqués. Elle va surtout travailler la forme et la couleur.
Alors Mathilde Roussel, puisque vous venez de me dire cela, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a eu des conversations qui ont évoqué le nom de O'Keeffe par rapport à celui de Jackson Pollock. Et je me suis demandé si ce n'était pas là qu'était la coupure entre un artiste qui nous est un petit peu ancien, ce serait le cas de Georgia O'Keeffe, ce qui ne veut pas dire que les sensations qu'elle nous procure n'ont pas toute leur fraîcheur, et un artiste comme Jackson Pollock, le grand artiste du dripping américain, ce grand révolutionnaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence quand on dit Georgia O'Keeffe représente la nature et Jackson Pollock est la nature?
Je pense pas que Georgia O'Keeffe représente la nature. Je pense que justement,
qu'elle est tout autant.
Elle l'a ressentie à travers son corps et elle l'exprime d'une manière très directe, un peu comme les expressionnistes qui viennent après, comme Jackson Pollock. Je pense que c'est plutôt une continuité.
Sophie Bernard va dans votre sens. Je l'entends protester à l'autre bout du studio. Sophie, qu'est-ce qui se passe?
Je dirais qu'en dépit d'un aspect très, très lisse, presque porcelainé, on est très loin du dripping, c'est sûr. On est même à l'opposé en termes stylistiques.
Mais
malgré tout, elle peut être la nature. Georgia O'Keeffe est la nature. D'ailleurs, Stiglitz le disait. Il disait « Georgia O'Keeffe est une source d'émerveillement permanent pour moi comme la nature elle-même ».
Mais elle avait aussi ce mot très choquant pour nous. Elle disait « elle peint avec son utérus ».
Oui, mais effectivement, c'est ce que nous voyons presque dans cette image de 1919. C'est peindre peut-être pas avec son utérus, mais peindre avec sa sensualité. Après, en tout cas, voilà, moi je la vois comme une femme en lien étroit avec la nature. Cette grande enfant de la nature dont parle Stiglitz, quelqu'un qui a vécu dans les plaines du Wisconsin, qui meurt à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et qui aura sa vie durant un rapport viscéral et sensuel à la terre où elle vit.
Et Mathilde Roussel, vous aussi, vous trouvez qu'on voit dans son travail non seulement la représentation des paysages, mais c'est comme si c'était les paysages et la terre et qui façonnaient sa vision. C'est ce que vous voyez dans les grandes peintures ?
Oui, je pense que ces peintures incarnent le paysage, vraiment à travers la chair. C'est ça qu'elle a essayé de dire, je pense, d'une manière assez spontanée.
Ce serait la représentation du paysage comme processus ?
Peut-être, oui, parce qu'il y a un côté très vivant.
Très animé, en fait. On a l'impression d'une peinture en mouvement, presque, aussi, dans ses premières abstractions.
Alors, Sophie, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a quitté New York ? Pourquoi est-ce qu'elle a quitté New York, d'abord ? Vous avez raconté comment elle avait rencontré Stieglitz. Elle est heureuse avec lui. Ils ont une vie d'une sensualité passionnante. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Il y a un petit moment de crise en 1929. Ça correspond d'ailleurs à ce grand épisode de dépression aux États-Unis qui marque également le couple Georgia O'Keeffe Stieglitz. Ils sont mariés en 24 et en 29, on a quelques déconvenues. Stieglitz a rencontré notamment Dorothy Norman. Et puis au-delà de ça, au début des années 30, il y a aussi chez Georgia O'Keeffe une difficulté avec la commande du radio City Music Hall. Et donc effectivement, elle décide de partir avec Rebecca Strand en vacances à Santa Fe. Et d'emblée, elle est séduite par ces paysages qu'elle connaissait déjà pour les avoir visités avec sa sœur en 16. Et c'est une révélation pour elle que ce Nouveau-Mexique et cette terre sauvage du Nouveau-Mexique.
Quand est-ce qu'elle va faire sa première exposition au MoMA ? Car je crois me souvenir que c'est la première femme de l'histoire américaine à avoir exposé au Musée d'Art Moderne de New York.
C'est en 1946. C'est 2 ans après la mort de Stieglitz.
Impressionnant quand même. Elle va à Santa Fe, elle y reste ?
Elle y reste. D'abord, tous les étés, elle s'y rend jusqu'en 1949. Et d'ailleurs, c'est à la mort de Stieglitz. Enfin, après 1949, elle s'y installe définitivement.
Alors Mathilde Roussel, vous qui ressemblez un petit peu à Georgia O'Keeffe très jeune, qu'est-ce que vous pensez de son visage ? Parce qu'elle a été photographiée infiniment, elle a fasciné tous les photographes, non seulement Stieglitz, mais je crois qu'elle n'a pas arrêté toute sa vie d'être étonnamment photographiée. Vous pensez qu'elle a fabriqué son visage comme ses peintures ?
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a sculpté son visage, que son visage, qui même à la fin de sa vie est extrêmement ridé, on a l'impression de voir...
C'était pas là le point commun que je voyais avec vous, tout de suite.
Merci. Ça ressemble vraiment à une forme de désert, ça ressemble aux falaises qu'elle peint plus tard, qui sont creusées, qui ont vécu, et elle avait cette espèce de force... qui a probablement fasciné les photographes de l'époque. Et d'ailleurs, elle a changé, son corps a changé un peu depuis le moment où Stieglitz l'a photographiée comme presque un objet sexuel, très sensuel. Après les critiques, j'ai l'impression, quand on l'a un peu catégorisée de cette manière-là, elle est devenue très...
Elle s'est affirmée, oui, par la photographie. Elle l'a instrumentalisée aussi, d'ailleurs.
Et elle est devenue très asexuée. Elle qui peignait tellement cette féminité, elle est devenue un corps totalement androgyne, non ?
Elle est très androgyne, toute jeune, je dirais aussi. Son visage l'est, à mon sens. Après, effectivement, elle se transforme en pionnière au sein du désert et elle joue avec, notamment Ansel Adams qui la photographie tout autrement que Stieglitz. Et elle se sert de la photographie comme un outil pour véhiculer aussi une autre image. L'image d'une artiste qui n'a peur de rien et qui sillonne les terres du sud-ouest.
Alors cette grande artiste, femme, amante, modèle, nous le disions à l'instant, et artiste, écoutons un des grands regardeurs d'aujourd'hui de son œuvre. Un célèbre texte de Julia Kristeva.
Femme, amante, modèle, artiste, Georgia O'Keeffe condense tous les rôles que les femmes ont tenus dans l'histoire de l'art et dans l'art moderne et qui les ont souvent rejetées dans des marginalités douloureuses. Or, si elle excelle dans chacun de ses emplois pris séparément, elle les combine surtout avec une intensité élégante, peut-être sans précédent et sans suite. Unique, sa complexité vitale et son esthétique dégagent cependant une simplicité qui défie les interprétations et n'en reste pas moins mystérieuse. Son dédain des mots, ses déclarations d'être impénétrable au langage, hérétif aux spéculations critiques suscitées par son œuvre, ont sans doute contribué à l'éloigner des courants plus raisonnés, plus philosophiques de l'art moderne. telle une force sauvage surgit de la nature puissante du nouveau continent, en communion intime avec ses couleurs, vents, sons, fleurs, chair, os, montagnes, canyons, plaines. Georgia O'Keeffe semble effleurer l'aventure de l'art moderne et atteindre immédiatement, sans intermédiaire, une sorte de sainteté sublimée, de perfection limpide et incontournable. Comme pour Emily Dickinson, mais de manière moins sombre, plus colorée précisément, et infiniment plus heureuse dans sa face sociale, c'est le mot d'expérience qui conviendrait mieux à son exigence, tant le terme d'art paraît partiel par rapport à la polyvalence de son aventure. À rebours, le mot expérience, rattaché à ces visions que sont ces tableaux, d'une nudité désarmante et cependant onirique, irrationnelle, bouleversante, permet de traverser l'impression légère qu'on est tenté d'avoir de Georgia O'Keeffe, comme si elle était une artiste naïve, entre guillemets, pour découvrir la dynamique d'un sens inépuisable, par-delà la parcimonie apparente de ses représentations. Avec l'insolence des grands artistes qui feignent à peine d'être modestes, Georgia O'Keeffe semblait considérer que la peinture était la face visible, à la limite indifférente, d'une expérience complexe d'organisation globale des formes, dont elle était sûre, la plupart du temps, d'avoir la maîtrise. Julia Kristeva, Georgia O'Keeffe, La forme inévitable, 1989.
Écoutons évidemment cette émission Les Regardeurs pour regarder ensemble, observer ensemble le tableau de Georgia O'Keeffe. Et je suis avec l'artiste Mathilde Roussel, la conservatrice Sophie Bernard, pour que l'on découvre le sens caché de cette œuvre singulière. Et Mathilde Roussel, puisque vous êtes avec moi et que nous venons d'écouter un très beau texte de Julia Kristeva, je voudrais savoir ce que vous avez compris lorsque Julia Kristeva dit au fond, la peinture est la face visible d'une expérience beaucoup plus large, qui est son organisation du monde. Elle dit une expérience complexe d'organisation globale. Est-ce que, vous qui êtes artiste, on peut penser que l'artiste, au-delà des objets qu'il fait, essaye d'organiser un monde ?
Oui, je pense que chaque artiste, à sa manière, essaye de comprendre le monde tel qu'il est. Il essaye de l'interpréter, de le transformer, de peut-être l'expliquer à sa manière et c'est peut-être ce qu'essayait de faire Georgia O'Keeffe.
Ça voudrait dire qu'il y a une grande cohérence entre la façon dont elle habite, la façon dont elle s'isole, dont elle regarde le ciel, dont elle regarde à travers, vous le disiez tout à l'heure, un os pelvien d'animal pour regarder comme à travers la mort et ses peintures. Ce serait une sorte de relation entre une sorte de land art spontané, des peintures et une façon de vivre.
Oui, je pense que chaque artiste doit créer une forme de contexte pour pouvoir créer, pour pouvoir faire en sorte que les choses viennent. Et elle s'est créée tout un monde autour d'elle, effectivement, avec le désert. Elle allait avec sa voiture se promener, elle peignait dans sa voiture. Donc c'était une manière de vivre son art et de lier les deux. Donc je pense que c'est assez indissociable, oui.
Sophie Bernard, Madame la conservatrice, est-ce qu'il n'y a pas des parties du désert qu'on a appelées de son nom ?
Si, à sa mort, ses cendres sont répandues, dit-on, sur cette région de Santa Fe qu'on appelle aujourd'hui O'Keeffe Country.
Donc elle a réussi à faire un land art hallucinant.
Oui, elle a réussi à s'approprier cette région qui lui était viscéralement attachée. Elle disait que tous les printemps, elle n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner. Elle parlait d'attraction, l'attraction est si forte. Et effectivement, elle en a fait sa terre d'élection, ses ossements qu'elle ramasse, ses ciels qu'elle peint. Elle est, voilà, foncièrement, elle est devenue cette région-là.
Donc il y a une époque où, au 19e siècle, on regardait un bouleau dans la nature et on disait « tiens, un coraux », et là on voit un beau paysage dans le désert et on dit « tiens, un O'Keeffe ». C'est-à-dire que tout d'un coup, la vision du monde s'est transformée à cause d'un tableau.
Oui, les falaises, les canyons de Georgia O'Keeffe sont aussi, ont estampillé son travail à cette époque-là.
Et si vous tombez sur un crâne de bison, vous dites « tiens,
un Georgia O'Keeffe ».
Aussi. Donc ça veut dire que c'est des images qui sont devenues extrêmement fortes dans l'imaginaire américain. Est-ce qu'elle est, c'est une créatrice d'icône au sens où la publicité utilise ce terme ?
Les peintures de Georgia O'Keeffe ont une force d'image. Effectivement, ce sont des icônes. On a l'impression presque des images qu'on a vues en rêve ou qu'on a déjà vues d'une certaine façon. Il y a une force inédite, quelque chose d'incroyable. Alors, est-ce que ça tient à la technique, à la frontalité des motifs, à cette finesse ? On a l'impression, oui, de voir des images presque oniriques et en tout cas d'une force incroyable.
Vous le ressentez, Mathilde ?
Oui, je pense qu'elle est très connue aux États-Unis, spécifiquement parce qu'elle a utilisé des éléments
typiquement américains aussi.
À l'Amérique du Sud, au Nouveau-Mexique, les crânes, les roches, tout ce vocabulaire de forme qu'elle a emprunté à cet endroit-là. Et,
même les buildings, plus tôt dans sa carrière, sont aussi...
Parce qu'effectivement, il y a eu une période building aussi, les périodes new-yorkaises, donc où elle peint... Il y a un très très beau tableau dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez le décrire, où on voit ces deux buildings au milieu de la nuit ?
Oui, c'est le tableau de Minneapolis qui s'appelle City Night, qui est magnifique. On a une vision nocturne, on va dire, de New York. On a l'impression d'être dans une rue à New York et de voir et d'être surplombé par d'immenses buildings qui sont peints en noir et blanc. Et on a la nuit étoilée et on est dans
Il y a un astre en plein milieu.
Ouais, un astre qui vient nous
comme une graine qui viendrait se poser dans un calice, en fait. Il y a une relation très florale, je trouve, dans le processus d'installation de ce tableau. Mais je l'ai peut-être fantasmé.
Vous l'avez peut-être fantasmé, mais on retrouve ce point blanc, cette forme de graine, effectivement, dans d'autres tableaux, et notamment dans Abstraction Noire, une œuvre de 1927, où on a un point blanc tout aussi énigmatique au cœur de l'image.
Mais là, elle est dans une... relation avec les photographies et les peintres de scènes urbaines de l'époque, aussi bien les photographies de Stieglitz,
la
cité de l'ambition ou de Strand, ou bien les peintures de Schiller, de gens comme ça.
Les peintures de Schiller, ces peintres voilà, précisionnistes qui s'inspirent eux aussi de la photographie pour créer des vues urbaines, mais chez elle, je dirais que c'est d'emblée mystérieux. On n'est jamais dans une vision justement purement photographique. On s'en distancie pour créer quelque chose de toujours très énigmatique.
Les œuvres de Georgia O'Keeffe sont au fond des systèmes assez simples, trois ou quatre formes qui se rencontrent, rarement plus. Et pourtant, on leur trouve un mystère. Comment on fait une chose pareille, Mathilde ?
Je pense que ça tient beaucoup au zoom qu'elle fait. On a l'impression qu'elle a posé les objets qu'elle peint très près d'une loupe et qu'elle va, avec effectivement des formes très simples, nous donner la sensation qu'on a tout un paysage ou toute une cartographie sous les yeux.
J'ai remarqué que très souvent dans les textes que nous avons entendus, Georgia O'Keeffe évoque la question de la révélation. Il faut que la forme se révèle. Est-ce que vous pensez que c'est un mot qui vient de la photographie? Est-ce qu'elle, on n'est pas dans le laboratoire obscur éclairé par une ampoule rougeâtre qui nous amènerait à faire en sorte que, en nous-mêmes, l'image se révèle?
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre de l'apparition, du surgissement, des formes qui viennent comme...
Elle a d'ailleurs aidé Stieglitz.
Sophie.
Elle a d'ailleurs aidé Stieglitz dans son laboratoire. À ses débuts, elle était presque son assistante à New York et à Lake George. Donc on peut imaginer qu'elle connaît le processus de révélation photographique.
Parce que j'étais frappé dans le tableau que nous avons examiné aujourd'hui, la ligne rose, de voir que toute la partie haute était une lumière rouge comme celle qui apparaît dans un studio de photographie ou de radio, puisqu'on en a une entre nous, et qui amène juste cette lumière qui n'éclaire pas, cette étrange lumière qui n'éclaire pas, qui luit.
Je pense qu'elle est fascinée certainement par ses aspects techniques, photographiques, et ça transparaît dans cette image, mais également dans une autre œuvre importante de l'exposition que j'ai déjà citée, qui est Abstraction noire. On a l'impression de voir un objectif photographique, notamment, qui vient peut-être photographier son corps, quelque chose de rond, d'étonnant. Et ça transparaît aussi dans les ossements pelviens qu'on a évoqués. On a l'impression, là aussi, d'un objectif. Et peut-être que voilà, cet aspect de révélation joue encore ici.
Vous croyez, Mathilde, à cette peinture comme à une peinture très métaphorique? Tout à l'heure, quand on parlait de cet os pelvien, justement, on disait c'est peut-être voir à travers la mort, même de l'autre côté. Ces scènes très sexuées sont quand même une vision plus des processus de nature. Est-ce que c'est une artiste de la métaphore? Est-ce que ce sont des allégories, au fond?
Oui, je pense que effectivement, elle travaille avec des symboles universels, donc on peut y voir plein de choses en même temps.
Vous êtes tenté, vous, dans votre travail, par atteindre une vision mystérieuse de cet ordre-là?
Oui, je pense que l'ambiguïté des formes est assez importante pour que le regardeur, justement, puisse voir ce qu'il a envie de dans l'œuvre et la compléter. Et effectivement, cette idée de créer des rapports nouveaux entre les formes, que ce soit des formes corporelles, végétales, animales, une manière de faire qui est intéressante parce que on va pouvoir confondre différents mondes, différents moyens de transformation.
Sophie Bernard, c'est une peinture allégorique?
Moi, j'y vois pas une peinture allégorique. J'y vois plus un répertoire d'images. Je suis pas sûre que Georgia O'Keeffe voyait derrière ces images un sens précis ou des multiples significations.
En dépit de son caractère gnostique, de son goût pour l'ésotérisme, de sa passion pour l'alchimie.
C'est difficile à dire. On est entre l'image. On n'a pas forcément envie d'aller derrière, parce qu'il y a cette frontalité. Et on peut, bien sûr, l'interpréter de différentes façons. Mais en soi, j'y vois pas une peinture allégorique.
Merci Sophie Bernard, merci Mathilde Roussel, merci beaucoup pour votre aide dans l'interprétation de cette ligne rose.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé ensemble une peinture réalisée en 1919 par Georgia O'Keeffe. Elle est conservée à la Statische Galerie au Lembachhaus à Munich. Elle est en ce moment exposée à Grenoble dans la magnifique exposition Georgia O'Keeffe et les photographes. Cette exposition a lieu jusqu'au 7 février. Dépêchez-vous. Pour en parler, nous étions en compagnie de l'artiste Mathilde Roussel, merci Mathilde, et de la conservatrice spécialiste Sophie Bernard, conservatrice donc du patrimoine au musée de Grenoble. Merci Sophie. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission et réalisatrice inventeur du site internet Sylvia Fabre, le site est formidable, allez-y. Lecture des textes Daniel Lebrun. Belle voix, à la technique Manuel Couturier, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam. Et dans quelques instants, Catherine Libert et Ville Monde. Until you come, babe.
sir, you go back. Go to come for me, babe. Come to go by me, babe. Come, come, my babe.